ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme de Nathan ben Herschel Zorno Levracha. On nous pose la question ici, tout vient d'Hachem. Donc si, chassé shalom, à Dieu ne plaise, il y a un sale coup, d'accord? J'ai perdu mon porte-monnaie, je sais pas moi, n'importe quoi, que ce soit des petites choses et pas des grandes choses. Mais il est écrit dans la Gemara, de même qu'on remercie Hachem pour le bien, on doit aussi le remercier pour le mal, chassé shalom. Alors il ne faut pas demander qu'il y ait du mal, parce qu'on n'est pas du tout au niveau de supporter le mal que Dieu peut nous envoyer. D'ailleurs, la vie est suffisamment difficile comme ça pour demander encore plus. Mais quand ça arrive, il faut remercier Hachem. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mal en soi. Il y a l'oeguhara chez toi, il n'y a pas de mal chez toi, c'est un verset comme ça, il n'y a pas de mal chez Hachem. Le mal n'habitera pas chez toi. Le mal qui nous atteint est toujours un bien. Plus que cela, le Zohar HaKadosh, il dit que les souffrances qu'une personne a sur terre, ce sont les baisers passionnés d'amour d'Hachem. Les baisers passionnés d'amour d'Hachem. Pourquoi? Parce qu'une souffrance, c'est toujours agir plus. J'essaie d'expliquer une chose que j'ai expliquée assez souvent. On est venu sur terre pour être. Comment on fait pour être? Si je n'ai pas le choix dans ma vie, je suis programmé pour faire une chose que je ne suis pas. Un robot n'est pas... On ne peut pas dire que le robot il a un être intrinsèque. Il n'est pas. Physiquement, il est là, il peut être très actif, d'accord, mais on ne peut pas dire qu'il a une volonté propre à lui. Quand est-ce que je commence à être? Quand j'ai une volonté propre à moi. Ça veut dire que j'ai une marge de choix. S'il n'y a pas de marge de choix et tout est fixé à l'avance, je n'existe pas. Donc Hachem va créer le seul être dans l'univers, dans la réalité qui existe, qui est pareil, c'est Hachem, et le deuxième, c'est l'être humain. D'accord? À l'image de Dieu, qu'il a une volonté propre. Dans cette volonté, afin qu'elle puisse s'exercer, Dieu va me donner deux options. Le mal, le bien. Le faux, le vrai. Le faux, qu'est-ce que c'est que le faux? C'est ce qui n'est pas. Si je dis c'est une pièce de monnaie, c'est faux. Si c'est un papier sur lequel j'ai écrit des noms, c'est vrai. D'accord? Vrai égale réel, faux égale irréel. Le faux, il est irréel, n'existe pas. Mais, pour que les gens aient quand même le libre arbitre, alors Dieu va lui donner une couverture de super grande réalité. Tu vois une pub, d'accord? On voit une famille comme ça, heureuse, le papa, derrière la maman blonde en train de sourire, et les deux enfants en train de courir. Venez passer des vacances fantastiques. Bon, tu vas là-bas avec ta femme, tes enfants, et puis c'est terrible, d'accord? Ça ne sera jamais comme on t'a envoyé dans la pub, d'accord? La pub, c'est un mensonge. On te vend du mensonge. Le mal que Dieu a créé, nous vend maintenant aussi du mensonge. On imagine beaucoup. Tous à Kippour, c'est très difficile à Kippour de ne pas penser. Du coup, tu as une vision comme ça qui passe une seconde, un gâteau, la pâtisserie d'à côté, d'accord, une pizza ou un bon steak, d'accord. En train de jeûner. Donc, tu as faim, du coup, tu as une imagination qui passe. Ce soir, on va manger, d'accord. Ça arrive à des moments, tac, tu as une image. Au lieu de penser à Hachem, tu penses à la pizza. Bon, d'accord, c'est naturel. Vous serez tous d'accord que le goût de la pizza qu'on a en pensée, il est bien meilleur que quand on la mange vraiment après Kippour. C'est pas aussi bon que ce qu'on croyait. L'imagination fait énormément dans la mode française qui aime réveiller les instincts bestiaux de l'homme. On va pas montrer, on va suggérer. La suggestion fait beaucoup plus que montrer, parce que ça fait marcher l'imagination. L'imagination, c'est intéressant parce que ça se dit en hébreu « dimayon ». Et Maïmonide dit « c'est un démon ». Je pense à la même origine. Le mot « démon » en français vient de l'hébreu « dimayon », imagination. C'est des démons, c'est des réalités malfaisantes, éthérées, d'accord. Ce n'est pas des réalités tangibles qui te font croire des bêtises. Donc bien que le faux soit irréel, il a une image extrêmement réelle. Et la vérité, elle a l'air beaucoup moins réelle. Mais pourtant, c'est la seule réalité, c'est Hachem. Hachem, c'est ce qui va... Tous les plaisirs, toutes les choses de ce monde vont disparaître. Ce qui va rester, c'est Hachem et ce qui est branché avec lui. Et nous, on veut être. Donc, soit branché avec ce qui est. Tout le reste va disparaître. Donc, on a un libre arbitre. Maintenant, tu as une attirance vers le mal. Le mal, d'abord, c'est le hamac. Fais rien. Combien c'est bon de rester sans rien faire? La lourdeur. Perdre sa vie. La vie, elle est courte. Très, 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 très courte. Et après, le résultat de la vie, quand on passe dans l'autre côté, il est infini. C'est quoi infini? C'est fixé pour l'éternité. Jamais ça changera. Jamais. Jamais. C'est paniquant. Et je reste dans mon lit. Lève-toi. C'est bon de mourir, de perdre son temps. D'accord ? La lourdeur. C'est un des pièges du etc. Les envies, etc. Vous connaissez tout ça bien, etc. Maintenant, faire l'effort de passer le etc. et choisir le bien, ça nécessite forcément un effort. Tu ne peux pas arriver à être sans effort. Parce que c'est là que tu exprimes que tu es. Quand tu te laisses aller à tes envies, tu n'es pas, tu subis. Tu subis. Tu es même très actif, d'accord ? On va, je sais pas, on va faire des 400 coups, on est super actif. Mais tu subis parce que tu subis en fait tes pulsions. Ce n'est pas toi, les pulsions qui te poussent. Ne pas suivre la pulsion, ah ça c'est déjà moi. Quand je suis la pulsion, ce n'est pas moi. Je subis la pulsion. Quand je dis non à la pulsion, qui dit non ? C'est moi, j'existe. Donc pour exister, il faut faire un effort. C'est impossible autrement. Donc effort, ça veut dire quoi l'effort ? Souffrance. Alors, ce n'est pas un accident de la route à 120 km à l'heure, ce n'est pas un divorce terrible, ce n'est pas un redressement fiscal, ce n'est pas un côté de fausse dans tous les journaux. Se lever le matin, d'accord ? Mais c'est un petit effort, petit. Maintenant, tu vas faire ta vie, tu vas le type super sadique. Toute sa vie, il fait des efforts, tout ce qu'il faut, tout. Ok, il a 120 ans à vivre. Combien d'efforts il a fourni en fin de vie ? Alors, on va dire, on donne un nom imaginatif, 1 million d'unités. De billes, d'accord ? 1 million de billes, c'est les efforts qu'il a fournis. Même 10 millions de billes, tu as fourni durant ta vie. Là, voilà, là-bas, il est dans une amplitude de 10 millions. C'est ça ce qu'il est. Quand Hachem veut que quelqu'un soit plus, il est un être beaucoup plus grand, pas 10 millions, 10 millions de milliards. Oh, 1 milliard de fois plus. Mais je ne peux pas faire plus. Il y a 120 ans. Les efforts à faire, charkit, minra, arvé, étudier la Torah, faire des quatre Amazones, faire la bracha avec la banane, etc., pas regarder les filles, enfin, quoi, là, là, t'as 120 ans. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Quand Hachem nous aime, veut nous donner plus, dans quelle échelle il va donner? L'échelle des efforts, n'est-ce pas? Alors, quand tu fais un effort, allez, t'es arrivé un, puis une bille, puis une bille, puis une bille. Moi, je te fais faire 100 000 billes par jour. 100 000 billes par jour, comment on fait ça? Alors, le type maintenant, Hachem voulait lui donner, comme je dis, 10 millions de milliards de billes. Et lui, il a fait 10 millions. Mais ce n'est pas beaucoup. Il peut faire beaucoup plus. Vers la fin de sa vie, le type, il aurait pu faire beaucoup plus dans sa vie. Il n'a pas fait. D'accord ? À la fin de sa vie, je me dis, pauvre, puisqu'il est arrivé dans le monde de vérité, il n'y a rien. Quand il fait sa vie, c'est début de la fin de la vie. Ça peut être aussi à l'âge de 20, 30, 40, peu importe. D'accord ? Hachem veut maintenant qu'on rattrape les efforts qu'on n'a pas faits. Le type, il arrive toujours 10 minutes en retard à la prière. Il a son truc chronomètre. Il sait exactement le temps que ça prend, se lever vite, arriver, hop, on est encore dans les temps. Ok, mais c'est quoi encore dans les temps? Ta prière, elle est bafouée et tout ça. T'aurais fait maintenant, tu serais levé 10 minutes plus tard, peu plus tôt, t'aurais fait une prière comme il faut. 10 minutes plus tôt, c'est infernal, très difficile. Bon, t'as pas fait cet effort-là. Combien de temps? 40 ans. Chaque jour, tu as raté une bille que tu aurais pu avoir. 40 ans de bille, ça fait combien de billes? Pas mal, hein? On va dire un chiffre, je ne sais pas, 40 fois 35, 13 000.
Au moins
40 000. 13 000, non? 13 000 environ, voilà. 12-13 000. 12-13 000 billes qui te manquent. Maintenant, où Hachem me laisse arriver au Lamaba, il me manque 12 000 billes, et je suis un pauvre type. Où il me les donne? Mais je ne donne pas gratuitement 12 000 billes. Comment il peut me faire récupérer maintenant les billes que j'ai ratées? Ben, il me fait faire tous les efforts d'un coup. Je vais maintenant mettre pas l'effort de me lever le matin 10 minutes plus tôt, une bille. Je te mets 12 000 billes d'un coup dans une seringue. Ça fait mal. Les efforts, la souffrance, c'est exactement la même échelle. Enfin, l'effort, il est là, la souffrance, elle est là-haut. C'est la même échelle, parce que effort égale souffrance. Petite souffrance. Souffrance, c'est une grande souffrance, c'est un grand effort, d'accord? Hachem, quand il aime quelqu'un, lui fait récupérer, par la souffrance, toutes les billes qu'il aurait pu avoir. Et des fois, c'est-à-dire tous les efforts qu'il aurait pu faire, qu'il aurait dû faire. Et des fois, il lui donne même encore plus, comme cadeau gratuit. Bon, ça, c'est pas pour nous. Qui sommes-nous pour avoir des cadeaux gratuits, d'accord? Les petits, on vient réparer. Mais les grands tzadikim reçoivent encore plus, parce que le saint fait qu'il souffre déjà, en soi, c'est déjà un effort qui fait qu'il mérite beaucoup, beaucoup. beaucoup plus.
Moi j'ai un problème avec ces genres d'interprétations qu'on dit par rapport aux billes, aux machins. C'est écrit qu'on ne peut pas s'imaginer ce qu'il y aura au Lamaba.
Mais je parlais avec des images, d'images, d'images de ce qui est là-bas.
Oui.
On sait que c'est bon là-bas. Et pourquoi on ne peut pas s'imaginer? Parce que c'est Hachem. Et Hachem, on peut pas l'imaginer. Mais on sait qu'il y a un jugement et qu'il y a du mal pour le mal qu'on a fait ou le bien qu'on a raté et qu'on a beaucoup de bien pour le bien qu'on a fait. Ça, on sait, en gros. Plus que ça, dans le détail, il y a des livres qui expliquent un peu, c'est très imagé aussi.
Mais par exemple, moi je me pose toujours cette question. Si on fait par exemple dans notre cas, tout ça, pratiquement on fait beaucoup de choses, on évolue dans la Torah et tout.
Oui.
J'ai entendu une histoire de vous d'ailleurs, qui parlait du Rav Esraim, qui disait que le Rav Esraim un jour était monté dans sa cabane. Il y avait, je crois, un ange qui était venu lui parler, qui lui avait dit: tu fais pas assez, t'es ci, t'es ça. J'ai entendu
Je vais
cette
pas
histoire.
raconter. Non, j'ai venu. Lui-même,
Ah.
il a dit, tu fais pas assez.
Lui-même, il a dit oui, lui-même, il s'est dit
Ouais,
sur lui-même, il a dit: je fais pas assez, je fais pas ci, comme ça on jugera et tout. Donc, quand on entend une histoire comme ça sur le Rav Esraim, on entend que même lui, il disait que. Il pense qu'au Olam Haba, on le jugera comme
Le
ça.
Rav Esraïm était très 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 haut et il savait qu'il était très très haut.
J'ai mis juste au
Attends, 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 ouais.
un petit
Mais il voulait plus. Il voulait plus. Tu comprends? Chacun de nous, on veut avoir plus. On veut plus être. Alors, si maintenant je me dis, ah, qu'est-ce que je suis bien, bah, tu rates. Tu es un nul. Boss, tu peux gagner encore plus. Attends, faut être très, très, avec les pincettes avec ça, parce qu'aujourd'hui, on est tellement nul que si on dit qu'on est nul, on n'a plus le courage. Presraïm, c'était un très grand. Alors, plus les gens sont grands, plus ils peuvent supporter l'idée qu'ils sont nuls. Eux, ça les motive à avancer. D'accord? Ça les booste en avant. Nous, si on dit qu'on est nul, au contraire, t'es bien, t'es bien, t'es bien, continue. C'est ce qu'il faut dire aujourd'hui. C'est vraiment comme ça. Donc ça, c'est pour répondre à la question du Rav Esraïm. Je reviens au début du sujet qui a été posé. Donc, quand un malheur touche quelqu'un, Chas Shalom, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Il est impossible que de Hachem vienne une chose qui est mauvaise. C'est toujours bien. C'est toujours bien. Mais il faut pas le demander.
Mais on doit le remercier d'avoir eu ça.
Oui,
On
oui.
doit demander de ne plus en avoir.
Absolument. C'est marqué qu'on remercie Hachem pour le mal, comme pour le mal, parce qu'il n'y a pas de mal qui soit mal en soi. Il est bien parce que soit c'est pour que tu aies plus de mérite, soit c'est pour réparer des choses que tu n'as pas faites, soit c'est pour réparer des choses mauvaises que tu as faites. Donc c'est toujours du bien. Toujours du bien. Quelqu'un m'a écrit aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a appelé au téléphone. Il a un problème dans l'oreille, ça fait depuis 2 semaines, ça ne va pas du tout, et il s'est remis à mettre tel katane. Ben alors tu vois que c'est bien. Hachem t'a envoyé une souffrance, et tu remets tel katane. Il ne comprenait pas. Ben voilà, c'est bien, alors, continue, c'est ce qu'Hachem veut. Les souffrances qui viennent sur Terre d'habitude, elles viennent nous rapprocher d'Hachem. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ne sont pas guidés. Et ça va mal, ça va mal, ça va mal, et ils ne pensent pas à Hachem. C'est dommage, parce que c'est un levier qui rapproche. Alors, quand quelqu'un, ça va mal, non, la réaction normale, c'est de lever ses yeux vers Hachem et supplier. Et se rapprocher de lui. Et d'habitude, ça aide beaucoup à ce que le mal disparaisse. C'est écrit, ce que je voulais te dire auparavant, que donc Hachem, il a deux voies de conduite. L'axe de rigueur céleste et l'axe de miséricorde. Maintenant, on dit qu'il y a des anges. Il y a vraiment comme ça une sorte de cour céleste, d'accord? Les anges viennent, ce sont les péchés qu'on a fait, on a créé des réalités spirituelles mauvaises qui viennent dire à Hachem, il doit payer, il doit payer, il doit payer. Hachem les écoute et ils ont raison. Ils ont raison. Mais la miséricorde vient dire oui, mais tu es miséricordieux, regarde. Peut-être qu'il a des mérites. Et il y a une guerre entre les deux. Maintenant, quand nous disons merci à un mal qui t'est arrivé, ça fait un effet tellement grand dans le ciel, c'est-à-dire que tu acceptes maintenant la sentence d'Hachem, tu acceptes le din, quelque part c'est écrit que le din il s'en va. L'accusation ne peut plus rien dire. Regarde, il a accepté. Il reconnaît, il a accepté, il dit Amen, il dit merci pour la souffrance. Alors arrête, c'est bon, il a compris. Laisse-le. C'est pas toujours comme ça, des fois ça continue. Mais en tout cas, ça diminue beaucoup, beaucoup le dîn. Donc c'est bien. Quand Hashem ne demande pas, il est interdit de demander les souffrances. Interdit parce qu'on ne sait pas si on pourra supporter. D'accord? Le roi David a demandé éprouve-moi, et il a été éprouvé, et il s'est planté. Le roi David. D'accord? Alors qui on est, nous? Des morceaux de poussière, d'accord? Donc, jamais demander les souffrances. Savoir que quand ça vient, c'est que du bien, c'est que du bien, c'est que du bien. Ça fait mal et personne ne demande. Je raconte l'histoire du Rav Chaim Grenman. C'est une histoire terrible. Terrible parce qu'on n'est pas au niveau. Je vais expliquer de quoi il s'agit. Rav Chaim Grenman, c'est un des sages d'Israël qui est à Bnei Brak, qui est décédé il y a 4-5 ans. Rav Chazan m'a raconté, son fils de Rav Kalman est un bon ami de Rav Chazan, il m'a raconté qu'un jour, dans sa vieillesse, Rav Kalman demandait à sa famille, je vais aller prier au Kotel. Venez, on va tous au Kotel. Bon, ils vont tous au Kotel. Et ils prient, ils prient, ils prient. Après, eux, ils commencent à partir. Ils disent, ok, allez-y, j'arrive bientôt. Il reste encore une heure à prier. Ils rentrent dans la voiture, ils sont en route pour Bnei Brak. Ils disent, mais papa, qu'est-ce que tu as fait tellement de temps? J'ai prié Hachem. Je veux qu'il me fasse souffrir dans ce monde pour pas que j'aille en enfer. 3-4 jours après, il est tombé, fracassé les os, quand il est déjà vieux, et il a souffert des souffrances terribles. Son fils a raconté au Rav Chazan, j'ai vu mon père, au moment des plus grandes souffrances, il avait tout à coup un bonheur sur son visage extraordinaire. Alors, pourquoi je dis que c'est terrible? Parce que moi, si on me dit maintenant, est-ce que tu veux souffrir ici? Pas maintenant, 2 ans avant ton décès, beaucoup pour pas aller en enfer? Je pense pas que je dis oui. Et c'est pire en enfer, c'est 1000 fois pire. Mais nous, on ne voit pas. Alors, on attendra de, ok, je préfère que tout aille bien jusqu'à 120 ans, puis après, on verra. Mais c'est faux. C'est faux. Mais on n'est pas au niveau. On n'est pas au niveau. Donc, jamais demander souffrance. Ça, c'est un cas exceptionnel parce qu'il est capable de... Il le veut, d'accord. Mais nous, on n'est pas au niveau de le vouloir. Mais quand ça vient, c'est tout du gain. Tout du gain. Et si on remercie Hachem, on supplie Hachem que ça s'arrête, ça peut beaucoup, beaucoup aider. Ok.
C'est-à-dire que si on suit votre logique, si on a 2 personnes, une qui est sadique, plus ou moins, c'est vrai, qui a la Torah, machin, et elle ne souffre pas tellement. Une autre personne qui ne fait pas grand-chose et elle souffre beaucoup. C'est-à-dire que, en théorie, les deux, ils sont peut-être au même niveau, en fait.
Ils peuvent être au même niveau. C'est dur pour moi de te répondre quoi, mais c'est clair que celui qui ne fait pas grand-chose et qui souffre, il a du mérite. Combien? J'ignore, je sais pas, c'est dur à calculer. Je sais pas,
ce que je veux dire, c'est que les mérites, les souffrances, c'est un mérite, mais le potentiel, les mitzvot qu'il n'a pas fait, il ne les a pas fait.
C'est vrai, mais il peut dire j'ai souffert. L'effort que j'ai dû faire pour faire les mitzvot que je n'ai pas fait, j'ai quand même fourni. J'ai fourni l'effort.
Ça va déterminer quoi? S'il va aller en enfer ou sans sa proximité d'Hachem dans l'Olam Haba?
On ne peut pas savoir, parce que tout dépend de quelle âme, des grandes âmes, des petites âmes, quel est le rôle de cette âme sur terre, etc. Quelle mitzvot elle aurait dû faire, qui est essentiel pour elle. Il y a des mitzvot, si quelqu'un ne les fait pas, il doit revenir en Gilgoul. Réincarné. Et ces mêmes mitzvot pour un autre, il ne doit pas être réincarné. Pourquoi? Les deux ont fait exactement, ont raté la même mitzvah. Parce que lui, cette mitzvah, elle fait partie de l'essence même de son âme. Et donc, il est venu pour ça. Et l'autre, il n'est pas venu pour ça. Il est venu pour autre chose. Donc, on ne peut pas savoir. On ne sait pas.
Moi, j'ai juste. Ah,
bah, c'est une question de David, oui.
Je peux te poser une question. Si j'imagine une personne, je ne sais pas, dans sa famille, je ne sais pas, ou dans la chauve. Et donc, elle tombe dans la.
La souffrance en soi est un bien. Maintenant, il est vrai qu'il y a des gens qui ont des réactions comme après la Shoah. La Shoah, c'est un sujet délicat. Je sais, en 3 minutes de te répondre, d'accord? La Shoah, c'est terrible. D'accord? C'est clair. Et des millions de Juifs, enfin, beaucoup de Juifs ont quitté la Torah à cause de la Shoah. Il faut savoir que c'était d'habitude des gens qui n'étaient pas trop, qui n'avaient pas une grande émouna en Hachem. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu la Shoah, qui avaient une grande émouna et ont survécu, ils sont devenus beaucoup plus grands. La Shoah, c'est une sorte de laboratoire d'action de ce qui se passe en 2 siècles s'est passé en 1 mois. D'accord? On a mis dans des conditions tellement difficiles que ce qui serait arrivé après toi et ta descendance, parce que tu n'avais pas tellement d'émouna, alors tu as tout quitté parce que tu étais déjà un peu faible. Et celui qui était fort, il devait beaucoup, 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 beaucoup plus fort. Maintenant, il nous est très dur, nous, dans le monde fini, de comprendre qu'est-ce qu'il y a en bien dans la Shoah. C'est une chose qui est... Mais si on est complètement rationnel, en enlevant, c'est une chose difficile, d'accord, en enlevant tout sentiment. Vous savez très bien qu'en maths, 1 million de milliards de milliards, combien ça vaut par rapport à l'infini?
Zéro.
Donc tout ce que tu auras comme souffrance dans le monde du fini, qu'est-ce que ça vaut par rapport à l'infini? Rien. Donc si pour les souffrances petites, Hachem donne tellement dans l'infini, pour des grandes souffrances comme la Shoah, je vais t'ajouter une chose qui est super importante. Toujours, lorsque le peuple d'Israël a souffert en tant que peuple, a vécu une crise très difficile, après il y a eu une lumière extraordinaire qui est arrivée. On a vécu 400 ans, à vrai dire 210 ans, et de cela 86 ans d'esclavage très dur en Égypte. Terrible! Qu'est-ce qu'on a reçu après? La Torah. Ensuite, destruction du premier temple. Exil en Babylonie, 70 ans, terrible. Aman qui veut nous anéantir tous. Qu'est-ce qu'il y a eu après? Torah chez Baal Pé qui a commencé. Toute la loi orale, que c'est la vie du peuple d'Israël. Shoah, avant cela, à l'époque, début du Moyen-Âge, les croisés. souffrance du peuple d'Israël a souffert par les croisés. Qu'est-ce qui est sorti? Les Rishonim et Tosot de France, Rashi, d'accord, des lumières jusqu'aujourd'hui ça éclaire. Le Girush Sfarad, expulsion d'Espagne, qu'est-ce qu'il y a après? La Kabbalah, Rabbanu Ari, que c'est toute la Kabbalah qui a commencé à ce moment-là. Les Xerot Tachvetat, Chmelnitsky, 80% des communautés d'Europe orientale ont été anéanties par les Cosaques qui marchent même. Qu'est-ce qui a poussé à ce moment, ça a commencé juste après? La Chassidut. Et maintenant la Shoah. Alors qu'est-ce qui nous attend? Alors regarde, le petit début de 1 millionième de ce que c'est, déjà retour en terre d'Israël, on a un autre pays. Ce pays est florissant, là il pleut, Baruch HaShem, il attend encore des pluies torrentielles pour mercredi et jeudi. Chez moi, près de la maison, d'accord, il y a un barrage. Il y a encore quelques années, chaque année vers Pessah, comme ça, il y avait un lac qui se formait. C'est très beau, tu vas sur le balcon, tu vois un lac comme ça devant toi, c'est fantastique. Ça fait peut-être 8 ans qu'il n'y a rien. La sécheresse. Et quand il y avait le lac, c'était au mois de mars-avril, après une saison entière d'hiver. Là, maintenant, aujourd'hui, le lac, il est ras-bord rempli déjà. On est en décembre, demain 1er janvier. La bracha, la tchouva. Est-ce qu'on a vu dans l'histoire juive un mouvement de tchouva comme il y a aujourd'hui? Jamais. Jamais de l'histoire. Peut-être avec Haman, quand on leur a dit, dans 3 jours, vous êtes tous zigouillés en un jour, alors ils ont fait tchouva, mais tchouva de force, mais tchouva par amour d'Hachem, par recherche de vérité, il n'y a jamais eu de l'histoire. Quel cadeau énorme! Tout ça amène à Mashiach, et Mashiach, alors là, ça sera l'apothéose. C'est écrit, As imales rok pinu, alors notre bouche sera remplie de rire. Quand on comprendra les souffrances qu'on a eues durant toute l'histoire, alors on va rire. C'est dur de dire cela sur la Shoah, mais il faut comprendre, sans les régachotes, sans les sentiments, que l'infini par rapport au fini, le fini, il n'a aucune valeur. Et on a souffert tout cela pour recevoir l'infini. Ni la terre d'Israël peut légitimer la Shoah, ni le monde de Tshuva pour légitimer la Shoah, ni la bracha qui est maintenant l'agriculture. Ça légitime en aucun cas la Shoah. Mais qu'il n'y ait plus de mal dans le monde, plus jamais, et qu'il n'y ait que du bien pour l'éternité, oui. Oui. Ceux qui ont vécu la Shoah ou ceux qui sont descendants, ils pourront me crier dessus, d'accord? Mais ça valait la peine qu'il y ait ces 3-4 ans, 4-5 ans de souffrance terrible pour qu'il n'y ait plus jamais de mal dans l'histoire. Que du bien, plus jamais une souffrance, pas une femme qui accouche qui a mal, pas un petit bobo, rien que du plaisir pour l'éternité, pour tout le monde, pour toute l'humanité. Combien ça vaut? Comme j'ai dit auparavant, mieux vaut un mois de misère et toute la vie milliardaire que le contraire. Baruch Adonai, l'Oman Ba'amen.